Bonsoir, merci de nous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine, au micro de présentation. John Lyndon, Lionel Gaïma sur la mise en onde de ce programme. Installez-vous confortablement et on se retrouve donc juste après. Vous écoutez VO Afrique, vous êtes dans l'Amérique et vous dans l'édition de ce vendredi 20 septembre 2019. Nous parlons de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous évoquons ce soir le réchauffement de la planète, les opérations de maintien de la paix de l'ONU et surtout l'interminable débat sur l'attribution d'un siège permanent de l'ONU de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies. En effet, des centaines de milliers de jeunes manifestent ce vendredi à travers le monde pour appeler les adultes à agir contre le changement climatique. Un sommet spécial climat est prévu lundi à l'ONU. L'Afrique est le continent qui pollue moins, mais qui subit de plein fouet les effets du changement climatique. L'Assemblée générale de l'ONU doit commencer la semaine prochaine et la question de l'attribution d'un siège de membre permanent au Conseil de sécurité reste une demande non satisfaite. Par ailleurs, de plus en plus de voix dénoncent l'inefficacité et le coût des opérations de maintien de la paix en Afrique. Voilà donc résumé les principaux thèmes que nous allons débattre avec nos invités. Et comme toujours, votre participation est attendue dans ce programme. Laissez-nous vos numéros et commentaires sur Facebook. Vous pouvez également choisir de poser vos questions à nos invités en direct en appelant au 001 202 205 26 33. Vous écoutez l'Amérique et vous êtes sur VO Afrique et bien sûr pour nous accompagner au cours des 25 prochaines minutes, nous avons comme invité depuis New York, Damba Bo, expert en relations internationales et président de l'ACN, entendez, African Communication Network. Damba Bo, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Merci d'être parmi nous. Vous restez à l'écoute. Le temps pour nous d'accueillir Vladimir Montero de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Monsieur Montero n'est pas encore en ligne. Nous l'aurons probablement au cours des prochaines minutes avec nous également. Avec lui, nous parlerons des missions de maintien de la paix des Nations Unies, notamment en Afrique. Nous attendions d'autres invités, mais en lieu et place, nous allons prendre d'autres que nous avons prévus également. Ce soir, accueillons donc Henri Désiré Nzouzi, consultant et expert en relations internationales. Vous êtes basé en Belgique, Henri Désiré Nzouzi. Bonsoir et merci d'être avec nous.
Oui, bonsoir John, bonsoir aux auditeurs de VOA.
Alors, Damba Bo, je commence par vous. Vous êtes à New York où de nombreux jeunes ont également défilé ce vendredi, comme partout ailleurs dans le monde, pour attirer l'attention des leaders sur les dangers du réchauffement climatique. Que dire ou que penser de cette mobilisation et du changement climatique lui-même?
Moi, je pense que c'est extrêmement important, cette mobilisation de ce genre, parce que ce sont des questions essentielles. Et comme toujours, les jeunes ont toujours porté les questions essentielles qui concernent l'humanité, je dois dire. Je ne dis même pas de l'Afrique. Et c'est extrêmement important parce que cette culture de protester, de se faire entendre à des grandes occasions, leur présence sur le sol américain, pour certains, cette culture donc est renforcée. Je pense que c'est important. Cependant, peut-être qu'au niveau des médias, il est important de trouver un moyen de relayer ces manifestations, parce que si vous connaissez un peu New York, la première avenue, là où se situe le quartier général des Nations Unies, soit on les envoie, les gens qui viennent protester, ils sont parqués vers presque la rue 47e, ou bien, bien avant la 42e, ce qui fait que les participants à ce sommet, les participants à cette Assemblée générale ont rarement l'occasion même de les entendre. Donc, il n'y a que le relais effectué par les médias qui peut faire
transmettre donc ce message. Donc, alors, Vladimir Montero nous a rejoint. Monsieur Montero, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je rappelle que vous êtes porte-parole de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Je rappelais à nos auditeurs que nous allons évoquer avec vous uniquement des questions de mission de maintien de la paix des Nations Unies. Donc, restez avec nous. Alors, Henri, on évoquait le climat tout à l'heure. Sur cette question, l'Europe semble plus engagée. Il y a eu l'accord de Paris sur le climat et ce vendredi, les partis de la fragile coalition gouvernementale d'Angela Merkel en Allemagne ont élaboré une stratégie pour le climat représentant au moins 100 milliards d'euros d'investissement d'ici 2030. En dehors des manifestations comme celle des jeunes aujourd'hui, comment réagit la population où vous êtes face à la question du changement climatique?
C'est véritablement une menace exceptionnelle qui pèse véritablement sur le continent africain, parce qu'il faut quand même rappeler que 7 des 10 pays les plus vulnérables au monde sont en Afrique, et c'est là justement que réside, je dirais, cette injustice flagrante pour un continent qui, en réalité, ne contribue que pour moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'une des premières victimes. Et donc, forcément, il y a péril en la demeure. Et donc, cette lutte pour préserver le climat est un enjeu crucial, mais il faut que les Africains puissent aussi se mobiliser et ne pas seulement attendre que les solutions viennent de l'extérieur, qui plus est, viennent de l'Europe. Alors c'est très bien, il y a eu la COP21 où un certain nombre d'engagements ont été pris par les Africains. On a vu depuis 4 ans que cela n'a pas grandement évolué en dehors, bien évidemment, des déclarations d'intention. Mais la menace est vraiment sérieuse. Parce que si nous avons plus de 200 millions d'Africains qui souffrent de malnutrition aujourd'hui, une menace que certains souhaiteraient contrer, notamment au niveau de la Banque africaine de développement, mais cela dépendra aussi de la capacité des États à mobiliser, ou en tout cas à mutualiser leurs efforts
pour
réduire de manière drastique cette menace. Alors, le débat reste ouvert, mais il est très important.
Alors, une menace importante aussi, Dame Babou, mais comment expliquer qu'ici aux États-Unis, le président Donald Trump, lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche, il n'a pas hésité à retirer son pays de l'accord de Paris? Et beaucoup de personnes ici pensent que le changement climatique n'existe pas du tout. Comment justifier une telle attitude alors que les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles, y compris ici aux États-Unis?
Mais c'est vrai qu'avec le président Donald Trump, dans tous les domaines, et en particulier dans ce domaine-là, l'attitude passe à droite et le président passe à gauche parce qu'il a une attitude idéologique. Ça, c'est extrêmement important à savoir parce qu'il parle à une communauté, il parle à un groupe d'électeurs particuliers et donc. Mais ce qui me rend plus ou moins optimiste, c'est qu'en Amérique, pour former l'opinion, il y a plusieurs canaux. Il y a le bully pulpit, comme on dit en anglais, que constitue la maison, le bureau ovale, mais il y a aussi les sciences, il y a les autres États. Et je pense que ce que notre collègue vient de dire est extrêmement important, à savoir les Africains doivent se mobiliser eux-mêmes, parce que la solution ne peut venir que de l'Afrique, bien que l'Afrique est victime, comme toujours, d'ailleurs, dans ce domaine-là, et qui émet moins d'éléments de pollution, mais qui est victime, en réalité, de la catastrophe. Et n'oubliez pas qu'en ce moment même, on a commencé à dire, et ça s'est passé la semaine dernière au Maroc, on a commencé à dire, par une voix non négligeable, le président Sarkozy, qui commençait à dire que c'est la fertilité des femmes africaines qui constitue au réchauffement du climat, croyez-le.
Voilà. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de propos. Vous parlez d'Afrique, on va y aller avec une voix qui compte aussi. On va parler de réchauffement climatique, qui est dans le thème central de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient à New York. Pourtant, il est de plus en plus fait état d'exploitation sauvage de la forêt équatoriale africaine. Et Di Sango de VOA Afrique a posé la question au secrétaire général de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui est en charge de l'Afrique centrale. Paul Nzapu nous donne son point de vue.
Oui, il faut dénoncer cette exploitation honteuse des éléments de la nature qui puissent contribuer à ce que cette problématique du réchauffement climatique soit gérée comme il se doit, au mieux de l'intérêt de l'être humain. Si on devrait prendre des mesures, il faudrait absolument dénoncer ces entreprises-là qui exploitent sauvagement le bois, les richesses de certains pays, y compris notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a vu avec l'incendie, si vous voulez, de la forêt Amazon, les gens se mettre debout. Mais on devait prévenir tout cela. Malheureusement, on essaie d'internationaliser ce problème.
Il y a aussi
problème.
Incendie en Afrique, au Congo ou ailleurs, la forêt équatoriale.
Tout à fait. Alors voilà pourquoi nous devrions conjuguer les efforts au niveau international et au niveau régional et même au niveau de chaque pays pour protéger ces espèces, nos forêts.
Alors, on va continuer cette émission donc et on va parler maintenant de maintien de la paix avec les Nations Unies. Vladimir Montero, merci d'avoir patienté. On va évoquer à présent un sujet qui vous concerne directement, donc les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Beaucoup de gens trouvent que ces missions sont inefficaces. Qu'est-ce que vous leur répondez?
La mission des Nations Unies ici en Centrafrique montre en tout cas comment la communauté internationale a répondu à un malheur qui frappait la Centrafrique avec des meurtres. Et c'est cette mission, mais également d'autres partenaires, d'autres opérations qui ont permis d'éviter un génocide qui se préparait. Il y a des difficultés, il y a des problèmes qui ont été reconnus par les Nations Unies. Il y a eu un rapport du général Cruz pour essayer de voir dans quelle mesure améliorer la performance des missions de paix. Et c'est un travail quotidien, mais du secrétaire général au casque bleu au fin fond de la Centrafrique, de la RDC ou du Sud-Soudan, tous sont engagés justement pour protéger les populations et faire en sorte que les pays affectés par la crise retrouvent une vie normale.
Alors, mais la question qu'on se pose très souvent, peut-on maintenir la paix sans faire la guerre? Ce que je veux dire, c'est que partout où les missions de paix des Nations Unies se trouvent, elles n'ont pas, en quelque sorte, le droit soit de tirer, soit de se défendre, alors qu'en face, souvent, il y a des groupes rebelles ou des gens qui sont armés. Comment régler cette situation?
Vous savez, les missions de paix sont là pour essayer de maintenir une paix qui parfois n'existe même pas. Ce ne sont pas des missions qui sont envoyées pour faire la guerre. Mais ces missions, et pour le cas concret de la MINUSCA en République centrafricaine, c'est l'une des missions les plus offensives parmi les opérations de paix. Elle mène en ce moment cette opération et elle utilise la force. Elle a recours à la force pour défendre son mandat, c'est-à-dire pour protéger les populations, pour protéger les institutions ou pour se défendre quand elle est attaquée. Mais en même temps, elle a pour mission d'accompagner un processus de paix. Le processus de paix qui est en cours ici en Centrafrique avec l'accord qui a été signé le 6 février dernier entre le gouvernement et les 14 groupes armés. C'est un défi. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce mandat, mais on essaie de l'expliquer. C'est de contribuer à la réduction de la menace des groupes armés à travers un processus politique. Le recours à la force. Le recours aux armes existe, mais il répond à des conditions. La première, c'est lorsque la population est menacée, alors là, on agit et on le fait comme en ce moment à Birao ou dans la zone de Pawa.
En quelque sorte, ceux qui sont chargés d'assurer ces missions de paix-là, ce ne sont pas simplement des gros fonctionnaires de l'ONU qui coûtent très cher à l'institution.
La mission de paix commence par le travail du Conseil de sécurité qui donne mandat. Il y a la contribution des États membres, que ce soit en troupes, soldats, que ce soit avec des policiers ou des civils, avec le même objectif, c'est-à-dire de permettre un pays en crise, en guerre, en conflit, de retrouver la paix comme d'autres pays dans le monde. Et récemment, lors du Conseil de sécurité sur la situation en Centrafrique, il y a eu des avancées qui montrent que l'approche est le global pour que sur le terrain, les choses puissent se traduire par une amélioration de la sécurité. Ce n'est pas évident, mais avec la contribution de tous, nous pouvons y aller, pouvons avancer.
On peut effectivement
les missions qui doivent faire le travail.
Tout à fait. Il faut une contribution des pouvoirs, des armées locales et puis des populations. Henri Désiré, on a vu l'ONU opérer en RDC, en RCA, on le disait tantôt, en Angola, au Rwanda, en Sierra Leone, au Libéria, au Soudan et en Côte d'Ivoire, avec des bilans plus ou moins mitigés. Quelle analyse vous faites de toutes ces missions onusiennes en Afrique et sont-elles vraiment nécessaires au vu des résultats et de leurs coûts?
Non, ces missions restent naturellement nécessaires, encore qu'il faille, je dirais, distinguer les contextes. Ce qui se passe en Angola, ce n'est pas exactement ce qui se passe en RDC ou ce qui s'est passé, je dirais, au Rwanda. Mais il y a quand même une constante dans toutes ces missions, c'est qu'il y a eu chaque fois une modification du mandat. Si je prends le cas de la RDC, par exemple, avec la MONUC, qui avait été instituée en 1999 et qui a opéré SAMU en juillet 2010 pour devenir la MONUSCO, eh bien, elle a connu plusieurs modifications de son mandat. L'un des plus notables, d'ailleurs, remonte à mars 2013, hein, lorsque l'on a créé au sein de la MONUSCO une brigade d'intervention qui, dans un premier temps, devait se spécialiser dans la lutte contre les groupes armés. Mais c'est aussi le fait que, dès son institutionnalisation en 99, la MONUC, qui est devenue la MONUSCO, n'était qu'une mission d'interposition. Aujourd'hui, elle a un rôle actif sur le terrain pour pallier, je dirais, aux insuffisances de, je dirais, l'armée nationale. Pour autant, il faut quand même relever que la plupart de ces missions maintenant, je dirais, s'occupent aussi de gestion post-conflit, hein, puisqu'elles accompagnent les pays dans le processus de reconstruction institutionnelle, accompagnent le processus électoral. On est vraiment dans une mission multidimensionnelle et je pense qu'il faut avoir présent à l'esprit qu'au-delà du résultat que l'on peut attendre sur le terrain, eh bien, les missions de maintien de la paix des Nations Unies ne se contentent pas seulement, je dirais, de traquer ou en tout cas de ramener la paix. Elles consistent aussi et surtout d'accompagner un processus de consolidation de la paix.
Tout à fait, comme le soulignait d'ailleurs à souhait tout à l'heure Vladimir Montero. Et au regard donc de la polémique autour justement du maintien ou du départ de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo qui a fait près de 20 ans dans ce pays sans qu'une véritable paix s'y installe, hein, Eddy Sango a également recueilli le point de vue de Paul Nzapu qu'on réécoute.
Posons-nous aussi la question de savoir si cette mission n'avait pas existé. Alors qu'elle était là, on a vu des autorités parfois qui ont recouru à des actes de terrorisme d'État pour gérer les populations congolaises de la façon la plus décrite avec à la clé des crimes contre l'humanité, des violations graves des droits de l'homme. À supposer que cette mission n'avait pas existé et que à l'Est, avec le pilulement de groupes rebelles qui se comptent par plusieurs dizaines, voire même on approche les chiffres de 100, ce que serait devenu cette partie de notre pays, même si cette présence a joué à une persuasion. Nous pensons qu'elle était nécessaire, mais c'est en nous, maintenant, Congolais, de prendre nos responsabilités. Et donc, il est grand temps maintenant de penser à ce qu'on puisse rationaliser la présence de cette force onusienne. Ce que le président Tshisekedi a essayé de faire, il a déplacé le quartier général de l'armée. La MONUSCO UNESCO, elle peut aider avec la logistique, elle peut aider aussi avec une certaine cartographie de là où se trouve vraiment le poche de ces milices-là, etc.
Dame Babou, je reviens à vous. L'Afrique est-elle incapable d'assurer sa propre sécurité?
Je crois que je voulais revenir un peu, si vous le permettez, sur la question des coûts du maintien de la paix en Afrique. Je pense que ce qui nous pose le problème des coûts utilise un double standard. Je voudrais bien qu'on me quantifie combien ça a coûté l'intervention du président Clinton en Yougoslavie. Si on posait le problème en termes de coûts humains, combien de morts ont été empêchés à cause de ces interventions? Je ne crois pas que le débarquement de Normandie en 1945 aurait eu lieu si on avait imaginé simplement la question du coût en dollars. C'est parce qu'on devait sauver des millions de vies. Si on évaluait les coûts sous ce rapport-là, je ne crois pas qu'on poserait le problème en termes de combien de milliards de dollars. Et le deuxième problème, c'est effectivement, comme Montero vient de le dire, que, c'est vrai que c'est difficile avec les règles d'engagement de ces missions-là. Ces missions doivent en principe maintenir la paix, mais dans des zones où il n'y a pas encore la paix à maintenir, c'est des guerres qu'on devait empêcher.
Alors, Vladimir Montero, pour terminer en quelques secondes, à quand la paix en RCA?
Ben, c'est le travail de tout le monde, c'est le travail qui est porté par le gouvernement avec la signature de cet accord, soutenu par la communauté internationale, l'Union africaine, la CAC, les Nations unies. Nous allons continuer à travailler dans ce sens en espérant que les groupes armés, les signataires,
puissent respecter l'accord.
C'est seulement comme ça qu'on parviendra à la paix.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va peut-être finir cette émission avec la question de l'attribution d'un siège de membre permanent à l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Henri Désiré, cela est-il possible et pourquoi ça tarde tant?
Écoutez, c'est un problème qui avait été soulevé depuis longtemps, mais qui n'a jamais été résolu. Sur le papier, effectivement, il serait équitable que l'Afrique dispose d'au moins un siège, mais il faudrait pour cela convenir d'un mode de représentation à arrêter entre Africains. Autrement, nous allons partir dans des palabres inutiles. Cela étant, l'Union africaine avait mis la barre très haut en réclamant deux sièges permanents avec droit de veto, mais il faut quand même revenir un peu sur terre et tenir compte, je dirais, des réalités. Ceci dit, il faut rendre hommage à Kofi Annan pour le travail qu'il a fait, puisque c'est lui qui avait prévu cet élargissement dans les réformes qu'il avait entreprises entre 1997 et 2006. Le débat reste ouvert, mais nous devons effectivement rester activement saisis par la question.
Dame Babou, l'Afrique, au Conseil de sécurité de l'ONU, un siège avec droit de veto.
Mais le mécanisme est déjà trouvé et il est très bien rodé. Les postes rotatifs de membres non permanents, l'Afrique a su les choisir tous les deux ans. Si on devait choisir un seul membre de permanent, mais pourvu que ce membre-là soit un membre permanent avec droit de veto qui représente l'Afrique, à l'intérieur même des États de l'Afrique, il peut y avoir une rotation pour désigner ce membre. Le mécanisme est déjà là. C'est sous la forme qu'on apportera des changements. Donc les gens qui disent que l'Afrique n'aura pas à même de choisir son candidat pour avoir ce poste, ce n'est pas la personne ou le pays qui est permanent, c'est le poste de l'Afrique qui sera un poste permanent.
Alors, en tant que membre. Dame Babou, sauf que ce sont les pays qui vont représenter. Si on se colle à l'actualité, l'Afrique du Sud à un moment avait été citée. Avec ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que un pays comme celui-là peut représenter l'Afrique?
Mais le président de la commission de l'Union africaine ne représente pas un pays. Le mécanisme qu'il a désigné peut être utilisé pour désigner un représentant au Conseil de sécurité pour toute l'Afrique. Donc, ce n'est pas parce que des pays ont montré des velléités voulant utiliser le poids économique ou le poids politique et quelque chose comme ça qu'on devrait avoir peur de poser la question. Parce que l'Union africaine a déjà trouvé le mécanisme de choix d'un membre qui représente l'Afrique.
Voilà, merci. Et c'est avec ces propos qu'on met un terme à cette émission. On s'excuse auprès des auditeurs qu'on n'a pas pu appeler, faute de temps. Restez à l'écoute des programmes de VO Afrique. L'actualité continue dans un instant avec Ekia Badou pour les informations. Bonsoir.